Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se dispute, toujours en direct sur CNews, toujours face à face. Geoffroy Lejeune, bonsoir.
Bonsoir Lionel, bonsoir Philippe.
Philippe Guibert, bonsoir.
Bonsoir Lionel, bonsoir Geoffroy.
Ravi de vous retrouver tous les deux, très en forme comme chaque semaine. Au sommaire, la journée internationale du droit des femmes, la parité est-elle atteignable? Je vous poserai la question dans quelques instants. La polémique de la croix des invalides est-elle justifiée? Emmanuel Macron va-t-il trop loin avec la Russie? Mais d'abord, le président français Emmanuel Macron qui a confirmé sa volonté d'inscrire la liberté de recourir à l'avortement dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne lors de la cérémonie publique de scellement de l'IVG dans la Constitution. C'était Place Vendôme à Paris, vous l'avez suivi sur CNews aujourd'hui. Il souhaite aussi s'engager pour que ce droit devienne universel et effectif. Écoutez.
Nous ne trouverons le repos que lorsque cette promesse sera tenue partout dans le monde. Nous mènerons ce combat sur notre continent, dans notre Europe, où les forces réactionnaires s'en prennent d'abord et toujours aux droits des femmes, avant de s'attaquer ensuite aux droits des minorités, de tous les opprimés, à toutes les libertés. Voilà pourquoi je souhaite l'inscription de cette liberté garantie de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Geoffroy Lejeune, question à tiroir. Pourquoi est-ce indispensable et prioritaire, en tout cas ce que suggère le président Macron, mais pourquoi c'est lui qui doit embarquer et incarner cette volonté d'aller plaider la cause de la loi IVG dans le monde, puisqu'il parle du monde entier?
Alors, c'est ni indispensable ni prioritaire. Je pense même que c'est grave. Ça, c'est un débat qu'on peut avoir avec... Avec Philippe, c'est la première chose, et moi j'y suis très opposé. Et la deuxième, c'est pourquoi ce besoin de porter ce discours au niveau mondial maintenant, j'appelle ça une fuite en avant. Enfin, je pense que c'est le terme qui correspond. Et d'ailleurs, on peut observer un parallèle entre ce qu'il est en train de faire sur l'IVG et ce qu'il est en train de faire sur la guerre en Ukraine, c'est-à-dire n'ayant pas de succès sur le plan intérieur, sur à peu près aucun des dossiers importants qui concernent la vie de ses concitoyens, Emmanuel Macron a décidé d'enjamber, avant vous savez en disant il enjambe une élection, maintenant il enjambe l'échelon national et il se projette dans l'échelon d'après, qui est l'échelon européen, où il aura plus de possibilités de succès. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une vingtaine d'années, le réalisateur Carl Zero avait fait un film parodique humoristique sur Jacques Chirac, qui avait très bien marché, et je ne sais plus comment il s'appelait, dans la tête de Jacques Chirac ou dans la peau de Jacques Chirac, je ne sais plus, mais à un moment donné, il disait, voilà, au fur et à mesure de ses échecs sur la question du chômage notamment, Jacques Chirac a fini par se projeter dans autre chose, qu'est-ce que je vais faire après avoir été président, etc. Et il terminait par président du monde, et c'était très drôle, très bien tourné. C'est la même chose pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en fait, n'ayant pas la possibilité de contenir, je veux dire, ayons en tête une seconde ce qui s'est passé quand il est allé au salon de l'agriculture, qui est censé être la communion entre le président et son peuple et ceux qui le nourrissent. Il n'a pas pu déambuler, il n'a pas pu rencontrer des gens pour de vrai, et il s'est fait siffler comme aucun autre responsable politique ne s'est fait siffler. Vous prenez ce constat-là et vous le voyez depuis donner des leçons au monde sur la conduite qu'il doit avoir. Je pense que ça s'appelle, c'est une fuite en avant, c'est une volonté d'échapper à ce marigot un peu poujado populiste qui l'angoisse, et une volonté de se mettre en scène dans sous des atours plus brillants.
Oui, parce que Philippe Guibert, on voit mal Emmanuel Macron aller prêcher à l'étranger, prendre son bâton de pèlerin pour défendre l'IVG. Encore que, pourquoi pas, il en a le droit, mais enfin, il y a peut-être d'autres dossiers qui seraient extrêmement prioritaires. Et peut-être êtes-vous d'accord avec Geoffroy sur le fait que c'est de la communication?
Oui, ou c'est de la politique, c'est de la communication politique. Ça, je l'accorde bien volontiers. Je suis devenu favorable à la constitutionnalisation de l'IVG. Je n'étais pas complètement convaincu au départ. Et je pense que c'était important que dans notre pays, mais en nous parlant de notre pays, nous ne décidons pas pour les autres pays. Je trouve que ce sujet fait partie de ce que chaque nation, y compris au sein de l'Union européenne, doit décider démocratiquement avec ses institutions sans qu'il y ait une contrainte européenne. Donc moi, je suis devenu favorable à la constitutionnalisation de l'IVG parce que c'est une liberté fondamentale, en l'occurrence des femmes, mais c'est une liberté fondamentale et qu'une liberté fondamentale a sa place dans la Constitution. La Constitution est pas seulement, mais entre autres, faite pour garantir des libertés fondamentales.
De là à ce qu'elles soient en danger ?
Je trouve qu'il y a un retour des religions dans l'espace public. Et là, je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Les religions, en général, font souvent pays ou femme leur retour dans la politique. Et je respecte énormément les religions, pour plein de raisons, y compris spirituelles. Mais je trouve que quand elles se mêlent de politique, c'est le cas aux États-Unis, mais c'est le cas en Pologne, ça peut être le cas en Italie, ça peut parfois être le cas en France. Je trouve que qu'elles ne sont pas à leur place et que la libre disposition de leur corps, parce que c'est ça au fond, hein, la liberté d'accès à l'IVG, le fait de ne pas être voué, destiné à être mère si on ne le souhaite pas, pour des tas de raisons qu'on pourrait détailler, qu'on connaît, je trouve que c'est une liberté fondamentale des femmes à disposer de leur corps. Et donc, que cette liberté fondamentale soit garantie par la Constitution, je trouve ça bien.
Parce que ce n'était pas le cas, est-ce que Simone Veil n'a pas fait le travail et l'essentiel, il y a déjà maintenant années ?
Non, parce que vous avez des tas. Je pense qu'aucun pouvoir, aucune majorité ne prendrait le risque politique de s'attaquer de front à la loi Veil. Vous avez des tas de façons d'affaiblir l'IVG par des restrictions de moyens, par des modalités, et que le fait de l'inscrire dans la Constitution permet au Conseil constitutionnel de s'appuyer sur un texte pour éventuellement censurer une loi qui mettrait en danger la liberté d'accès à l'IVG. Il n'y a aucun texte, il n'y avait aucun texte constitutionnel, a fortiori, enfin, j'allais dire presque par définition, ni la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, ni les grandes lois de la République des années de la Troisième République, ni le préambule de la Constitution de 1946, qui sont les trois textes de référence pour le Conseil constitutionnel, pour ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, aucun de ces trois textes, presque par définition, ne faisait référence à la liberté d'accès à l'avortement. Et donc de l'inscrire dans la Constitution me paraissait justifié.
L'inscrire dans la Constitution et donc développer à l'étranger,
d'aller se battre
en Europe,
l'Union européenne
et aussi dans le monde entier.
Ça, ça me paraît
pas être une... sont différentes.
Ça me paraît pas être le rôle du président de la République, pour le dire.
Parce que les autres pays sont des États souverains tout de même. Est-ce que c'est le président de la République française qui va aller porter la loi de l'IVG en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie, quoi?
Je vais vous répondre, Lionel, et je vais répondre. Je suis en désaccord avec tout ce qui est dit, absolument tous les points. Donc je vais répondre un par un.
Vous êtes là pour ça.
Et notamment sur le dernier point, c'est pas vrai, il y avait une jurisprudence du Conseil constitutionnel, justement, une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, justement, donnait grosso modo la même chose que ce qui vient d'être fait dans la Constitution.
Non, c'est pas la même chose, mais bon, voilà, c'est un débat juridique technique.
Juridique, mais de fait, cette jurisprudence existait. Personne n'en a parlé au moment où on a dit il faut absolument mettre dans la Constitution. Personne n'a dit ça existe. En tout cas,
plein de gens ont souligné que ça n'avait pas du tout la même portée.
Des gens qui étaient opposés à la constitutionnalisation, ils étaient de moins en moins nombreux au fil des jours, et donc, techniquement, juridiquement, ce qui vient d'être obtenu par les partisans de la constitutionnalisation existait déjà en droit. Après, c'était pas constitutionnalisé, c'était pas scellé comme on a vu aujourd'hui dans la cérémonie, mais tout ce qui est garanti aujourd'hui l'était. Moi, je vais dire pourquoi je suis pas d'accord avec tous les points qu'a développé Philippe. En fait, la loi Veil, qu'est-ce que c'est ? C'est une loi elle est ministre de la Santé, Simone Veil. C'est une loi de santé publique qui vise à éviter que les femmes qui ne veulent pas être enceintes se fassent avorter dans des caves avec ce qu'on appelait des faiseuses d'anges ou plus vulgairement des tricoteuses et prennent le risque de mourir puisque c'était le cas. Et donc pour des raisons de santé publique, elle dit on va encadrer ça. Attention, et je vais paraphraser Simone Veil. Attention, l'avortement est un drame. Cette phrase que tout le monde dit, elle n'a pas vraiment dit, si elle a dit. L'avortement est un drame, ça doit rester une exception. Mais pour des raisons de santé publique, on va encadrer ça parce que c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 75 ? Depuis 75, tous les verrous, tout le cadre posé par Simone Veil à l'époque a volé en éclats. Quand je dis volé en éclats, le mot est faible. C'est-à-dire que le délai de réflexion a été supprimé, la durée...
Il existe toujours.
Philippe, pardon. Il a été supprimé.
Je parle de cas concret.
Il a été...
Je parle de cas concret dont j'ai connaissance.
D'accord. Non, mais le délai de réflexion a été supprimé dans la loi, en fait.
Tu as toujours une femme qui souhaite avorter, a toujours un délai de réflexion.
Je vais aller chercher la date exacte, parce que comme ça, on parlera de choses concrètes. Le délai de réflexion, on peut imaginer pour une décision comme celle-là, c'est quelque chose. Et après, je parlerai aussi peut-être de ce que c'est l'acte de l'avortement, mais on peut imaginer que ce soit pas idiot de faire réfléchir. Non, ça a été supprimé. La durée a été rallongée. au point que certains gynécologues obstétriciens qui sont des praticiens de l'avortement et qui sont par ailleurs des partisans de l'avortement ont dit 14 semaines, c'est un peu too much. Attention, ça va un peu loin. Tout ça a volé en éclats. Il y a une offensive idéologique pour faire encore étendre l'avortement depuis des années par la gauche radicale et notamment par les féministes qui a
consisté...
Pardon ?
C'est-à-dire pour étendre.
Je ne sais pas, par exemple, Laurence Rossignol, qui a été ministre de la famille de François Hollande, qui a demandé à supprimer la clause de conscience des médecins.
C'est pas vraiment une gauchiste. Hein.
C'est, pour moi, ministre de la famille de François Hollande, qui demande la suppression de la clause de conscience des médecins, c'est du gauchisme, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, la clause de conscience, c'est le serment d'Hippocrate comme ça. Les médecins, ils ont une liberté de conscience qui est elle aussi garantie par la Constitution, qu'on leur a donnée sur cette question-là, sur la question de la manipulation de l'embryon, des manipulations génétiques, des sujets un peu compliqués. Tu m'accorderas qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Cette femme et d'autres élus écologistes, etc., ont déposé des propositions de loi pour la supprimer. Ce qui vient de se passer aujourd'hui avec la constitutionnalisation, c'est que c'est open bar pour la suppression. C'est-à-dire que demain, tu auras devant un tribunal quelqu'un qui dira, parce que la liberté, c'est pas la liberté de l'avortement qui vient d'être constitutionnalisée, c'est la liberté garantie. Donc, on nous a bassiné au Sénat, notamment en disant « Attention, c'est pas un droit opposable. » La clause de conscience des médecins au Sénat a été proposée, je crois que c'était l'article 2, a été refusée. Donc ça prépare bien le terrain. Demain, on pourra aller...
Ça prépare le terrain.
On pourra aller demain. Terminer.
Philippe. Alors, je peux te répondre d'un mot.
Philippe Guibert, vous répondez. Vous trouvez la date pendant
et moi,
ce temps.
Je terminerai après.
Et ensuite, vous concluez, effectivement, et on passera à un autre débat dans quelques secondes. Allez-y, Philippe Guibert.
Le débat sur les modalités, sur la durée de la période de réflexion, tout ça, on peut l'avoir. Et sur la clause de conscience des médecins aussi. La constitution...
2016, la suppression du délai de réflexion.
Écoute, je suis désolé, j'ai un cas très concret proche de moi où...
C'est la loi l'a supprimé.
Où le délai de réflexion a été proposé et mis en avant par le médecin.
Et ben, ça devait être avant 2016,
à l'égard de la personne concernée,
ça a été supprimé en 2016.
Évidemment. Et donc, le délai de réflexion n'est peut-être plus une obligation, mais en tout cas, concrètement et pratiquement, il est évidemment mis en œuvre. Et en général, si je peux me permettre, Geoffroy, une femme qui décide d'aller voir un médecin pour dire « je vais me faire avorter », elle a déjà réfléchi. Mais bon,
je n'ai pas dit l'inverse, mais c'était encadré par la loi.
Parce que ce n'est pas une décision, effectivement, tu disais c'est toujours un drame. En tout cas, je ne sais pas si c'est un drame, mais c'est jamais une décision... On prend légèrement comme ça à la légère et de façon désinvolte.
Le cœur donc, mais c'est le problème,
donc,
Philippe.
Donc
c'est
ne mélangeons pas la constitutionnalisation qui empêchera une loi de remettre en cause, non pas l'IVG directement, la loi Veil, mais les modalités d'accès à l'IVG. Ce n'est pas ça qui impose tous les débats dont tu as parlé, c'est pas du tout open bar. Là-dessus, il y aura un débat en fonction des majorités gagneront les élections.
Non, et non,
la constitutionnalisation ne permet en rien d'inscrire dans la loi tout ce que tu as mentionné.
Écoute,
loi, il y appartient toujours.
Non, mais je peux pas laisser dire ça.
C'est une majorité législative qui décide de la loi.
Je ne peux pas laisser dire ça. Tu sais très bien comment ça fonctionne. Un droit constitutionnel, il est supérieur absolument à tout. Tout le corpus législatif.
Le droit, il te dit pas si, la Constitution, elle ne te dit pas si c'est 14 semaines ou pas 14 semaines.
Liberté garantie.
Ça, c'est un autre débat qui relève de la loi.
Liberté garantie constitutionnelle, c'est au-dessus de tout. C'est-à-dire que demain, devant des tribunaux,
de la Constitution.
Demain, quand devant les tribunaux, il y aura des cas de ah, il n'a pas voulu, il m'a refusé, il a expliqué que je ne devrais pas, etc.
Qui le excuse.
Un médecin, par exemple. Un médecin qui exercerait sa clause de conscience,
Pardon, juste un point.
C'est exactement le problème en réalité.
Quand tu tombes sur un médecin qui dit je ne veux pas avorter pour conviction personnelle, la question c'est est-ce que tu peux trouver un médecin ou une clinique, quelque chose, un endroit où tu puisses te faire avorter.
Non.
C'est pas de reprocher au médecin une clause de conscience.
Mais si, justement, puisque la liberté est constitutionnelle et la liberté est garantie, demain, bon.
Tu peux pas le reprocher à un médecin.
Ah bah, c'est exactement le sujet. D'ailleurs,
ce que tu dois.
Le Sénat a refusé de mettre la clause de conscience dans la liberté garantie dans la Constitution. Mais moi, ce que je voudrais juste terminer de dire, c'est que, en fait, tu dis, oui, mais tout le monde sait que c'est un acte lourd, etc. Je suis désolé. Le spectacle qui a été offert lundi, au moment de la constitutionnalisation, avec les sourires, les applaudissements, la tour Eiffel qui scintille, les congratulations...
Oui, il y a des gens pour qui c'est une victoire politique.
Tu ne peux pas leur reprocher. Mais malheureusement, ça n'est pas que de la politique. Moi, ce qui me désole dans ce débat, c'est que on a plus de 230 000 avortements, un peu plus de 230 000 avortements par an. Un président de la République qui
en moyenne de 110 à 230 depuis 50 ans, le Claude Réveil. C'est d'une stabilité, il y a des petites augmentations.
Le record a été battu cette année.
Oui, 236 000. Voilà. J'ai regardé les chiffres.
Le record
c'est
a été
depuis 1975, donc, le nombre d'avortements en France oscille entre 210 000 et 230 000.
On conclut vraiment.
On vient de battre donc le record historique et que... On a un président qui, il y a quelques semaines, nous parlait de réarmement démographique et qu'au lieu de se poser la question, ouais, c'est pas une question...
Quand tu rapproches l'avortement de la démographie, là, je suis gêné.
Ah bah, pardon, excuse-moi, ça
non, non,
vient
je suis
absolument
gêné,
direct
je suis
démographie,
gêné.
C'est la naissance
c'est
des enfants.
C'est une décision individuelle, l'avortement.
Et justement,
et, en fait, et c'est pas une décision collective.
Je comprends que le débat s'est porté sur la liberté individuelle des femmes et je ne nie pas que ça en fait partie. Ce que je dis juste, c'est qu'en fait... On parle jamais, en fait, ça n'existe pas dans le débat public, dans la bouche de personne, du fait que, et moi, pardon, c'est exactement tout ce que j'entends sur le sujet, que justement, quel que soit ton avis sur le sujet, ça peut être douloureux.
Très rare.
Ça peut être douloureux.
Ça peut être, Geoffroy.
Non, mais c'est pas évidemment.
Enfin, pardon, les gens qui connaissent la Tour Eiffel, ils le savent.
La Tour Eiffel qui scintille, c'est pas la reconnaissance d'une douleur ou d'un questionnement.
C'est une
un peu
politique et même idéologique en partie pour
de la communication. Vous voulez rajouter un tout dernier mot, Philippe Guibert, vraiment, tout dernier mot sur ce sujet.
On va rester sur le droit des femmes. Ne mélangeons surtout pas le sujet de l'IVG et de la démographie. C'est vraiment un mensonge de dire que l'IVG a quoi que ce soit à voir avec notre démographie. Je te le répète.
Les enfants qui naissent pas, ça...
Je te le répète. Tu connais le nombre d'avortements clandestins avant la loi Veil?
Bien sûr.
Donc, le nombre d'avortements par an, c'est un sujet grave, hein. Le nombre d'avortements par an, c'est 210 à 230 000, cette année, 236 000. Donc, l'évolution de notre démographie, pardon, n'a rien à voir avec l'IVG. Si, et la baisse des naissances depuis une dizaine d'années, et surtout ces dernières années, n'a rien à voir avec l'IVG.
Vous ne serez pas d'accord sur ce sujet. On va essayer de s'entendre peut-être sur les autres raisons fondamentales de cette journée internationale des droits de la femme qui avait lieu aujourd'hui. Plusieurs milliers de personnes, en grande partie d'ailleurs des femmes, ont défilé à Paris aujourd'hui pour la défense de l'égalité femmes-hommes à l'occasion de ce 8 mars, lors d'une manifestation qui a été festive, mais émaillée, vous allez le voir, de tensions entre militantes pro-Israël et pro-palestiniennes. Ça a été le cas aussi à Bordeaux, où l'accès à la manif a été refusé à des femmes pro-israéliennes. Antoine Estève.
Elles sont une trentaine à tenter de s'approcher de la manifestation principale. Ce sont des femmes qui affirment lutter contre les violences sexuelles perpétrées par le Hamas. Mais sur la place de la Victoire, le cordon de sécurité de la coordination féministe de Gironde les empêche de passer.
J'ai en face de moi des femmes qui se revendiquent d'extrême droite et qui ne sont pas du tout sur nos positions féministes. Si elles souhaitent manifester, comme elles n'ont pas été dans l'organisation et qu'elles ne sont pas sur nos positions... il n'est pas question qu'elle rentre dans le cortège.
Pour toutes les femmes ! Pour toutes les femmes !
Pourtant, d'après nos observations sur place, cette manifestation n'a rien de politique. Chaque groupe de femmes ici semble défendre sa propre idée du féminisme. Les organisateurs reprochent au collectif pro-israélien Nous Vivrons de ne pas condamner la guerre contre le Hamas et d'être un mouvement politique d'extrême droite.
On a trouvé devant nous des femmes qui nous ont tourné le dos et qui nous ont empêchés d'avancer, de prendre part au cortège. Nous n'avons pas fait de politique. On défend la parole des femmes, on porte la voix des femmes juives qui ont été violées, assassinées et qui continuent de l'être. Pour celles qui sont gardées en otage. Voilà ce qu'on fait. On ne fait pas de politique.
Le collectif, finalement exclu du cortège féministe bordelais, a décidé de partir, escorté par un service d'ordre imposant.
Qu'on arrête de baisser la tête, qu'on arrête de se taire, qu'on arrête l'omerta sur ce qu'on nous fait subir.
De son côté, la manifestation féministe, soutenue par de nombreux syndicats, s'est déroulée dans le calme, avec de nombreux drapeaux et slogans politiques pro-palestiniens.
Ce qui veut dire qu'en cette journée symbolique, mondiale, l'égalité, les droits des femmes, c'est avant tout de la politique. Ou c'est surtout de la politique. Encore, Geoffroy Lejeune.
Chez ces militantes qu'on vient de voir, c'est absolument le cas, en fait. Mais honnêtement, je pense que le militantisme féministe d'extrême gauche est la pointe avancée de la décadence. Je pèse mes mots. C'est-à-dire que, honnêtement, il y a dans leur discours absolument tout ce qui porte en germe la déconstruction de notre société, de nos repères communs, de notre civilisation. Enfin, elles sont catastrophiques et elles sont coupables parce que dès qu'il y a un moment où elles pourraient défendre les femmes, mais que ça percute leur logiciel idéologique, elles sont absentes. C'est quasiment systématique et ça, c'est hallucinant. À part certaines qui sont courageuses et qui sont cohérentes, mais certaines, une poignée, on ne les a pas entendues après les viols de Cologne en 2015 ou 2016. Elles n'ont pas défendu la petite Claire qui était sur votre plateau tout à l'heure cet après-midi, qui a été violée parce que son agresseur était un migrant sous OQTF. Et c'est la raison c'est l'agresseur en réalité qui les intéresse plus que la victime. Elles sont incapables, dans le cas des victimes de viols par le Hamas, de tolérer la présence de femmes dans leur manifestation.
Parce ou de dire un mot sur les otages, les femmes qui sont absolument encore retenues
donc,
par le Hamas.
Elles sont catastrophiques. Et je veux dire, ce qui leur pose problème en réalité, je pense que le vrai féminisme d'aujourd'hui, c'est moi, je suis papa de trois petites filles. Je ne veux pas prendre mon cas perso comme un exemple, mais je pense régulièrement à l'avenir que notre monde leur prépare. Et je pense que à l'heure où on parle, le féminisme, c'est le respect des femmes dans le monde du travail, le fait de prendre au sérieux les femmes dans tous les domaines de la société,
qu'elles
de les traiter,
déambuler en sécurité, mais dans pardon, les transports, en fait dans aujourd'hui la rue, c'est ce qui revient souvent.
Aujourd'hui c'est ça dont elles sont le plus privées. Mmh. C'est-à-dire, je suis d'accord sur l'égalité salariale, etc. J'ai pas de problème, mais c'est elles sont privées du droit de se promener à toute heure, dans n'importe quelle tenue, dans les villes, dans les villes et dans les campagnes d'ailleurs. Ouais. Et ça, pour le coup, qu'elles ne veuillent pas s'emparer du sujet prouve qu'en fait c'est pas ça qui les intéresse.
Est-ce que cela veut dire, en creux, Philippe Guibert, que les femmes n'ont pas les mêmes droits entre elles parce qu'elles n'ont pas les mêmes idées ou en fonction de leurs idées? Parce qu'on parle de l'égalité, on parle d'égalité, c'est l'égalité aussi entre femmes. Mais là, en l'occurrence, il semble qu'il y a un décalage pour des raisons politiques.
Non, mais ce qu'on vient de voir, qui me choque profondément, est tout à fait révélateur de la crise que traverse une bonne partie de la gauche depuis le 7 octobre. Voilà. Et ça a des conséquences dans les mouvements féministes, parce que vous vous rendez compte que des militantes féministes qui défilent pour faire reconnaître le fait qu'il y a eu des viols systématiques le 7 octobre, c'est maintenant bien documenté, même l'ONU l'a reconnu, que des femmes qui manifestent pour dire cela, le 8 mars, journée internationale du droit des femmes, sont qualifiées d'extrême droite par d'autres militantes féministes. Je ne sais pas si on mesure le degré de folie dans lequel, enfin de folie, pardon, je retire ce mot, degré de bêtise, dans lequel sont arrivés un certain nombre de militantes féministes. Je ne dirais pas toutes, je généraliserais moins que toi. Mais vous savez, cette semaine, il y a eu une déclaration extrêmement révélatrice. Judith Butler, qui est l'icône du néo-féminisme, la grande théoricienne, philosophe, auteur respecté par ailleurs, intellectuelle connue mondialement, qui est la grande théoricienne de la distinction du sexe et du genre.
Merci
c'est elle,
à elle,
la mère,
merci
si elle, j'ose
ça,
dire.
Ça nous manquait.
Même si c'est un terme genré, de toutes les théories du genre. Eh bien, elle a déclaré cette semaine que le 7 octobre n'était pas un acte terroriste, que c'était un acte de résistance armée, et elle a dénié la portée des viols commis à cette occasion. On en est là, c'est-à-dire qu'une icône du néo-féminisme en vient à contester ce qui s'est passé le 7 octobre.
C'est un bel aveu.
Donc vous voyez que on sait très bien qu'à toutes les époques, il y a une partie des intellectuels d'extrême gauche qui ont déliré. C'est pas les seuls, hein. À l'extrême droite, on en a trouvé pas mal aussi à d'autres périodes. Mais ils ont déliré sur le stalinisme, ils ont pu délirer sur le maoïsme, et aujourd'hui, ils délirent à nouveau sur un certain nombre de sujets, dont celui-là. Et c'est relativement triste. C'est d'abord triste pour la cause féministe.
Mais oui.
Et pour la cause
c'est
des femmes.
C'est le statut de la femme qui est trimballé, qui est souillé.
Qui est instrumentalisé.
Et instrumentalisé, oui.
Par celle qui devrait le défendre. Mmh. Et donc, quand on est féministe, enfin, même quand on n'est pas féministe, on devrait condamner sans même discuter une opération de n'importe quel viol, d'une part. Oui. Et puis, a fortiori, une opération dont une des modalités, si j'ose dire, pardon du mot, était le viol systématique. Et elles ne sont pas capables de faire ça. C'est-à-dire qu'on est en pleine régression. Ces penseuses, je ne sais pas comment il faut dire, ces intellectuels, sont
c'est
en régression
tout
sur
c'est
toute la réflexion qu'il y a eu contre ce qu'a été le totalitarisme, ce qu'est le terrorisme. C'est une partie de l'expérience et de la réflexion qui ne rentre plus dans ces pensées-là. Et ça, c'est grave. Et
c'est parce que... Pardon.
Allez-y, quelques secondes, vraiment pour conclure.
C'est parce que l'idéologie, dans son aspect le plus nu, c'est ça, en fait. C'est d'ailleurs, tu remarqueras que le gauchisme s'empare systématiquement de causes dont il a strictement rien à faire, qui sont des prétextes, et qu'il pourrit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu pareil avec l'écologie. L'écologie a été captée par des mouvements d'extrême gauche qui se foutent complètement de la planète, qui font avancer leur agenda politique. Et le féminisme, c'est pareil. Mais je pense sincèrement que de la même manière que les agriculteurs.
On peut dire ça de n'importe quel mouvement politique.
Non, pas du tout. Je pense que les agriculteurs se sont rendus assez vite compte que les écologistes ne défendaient pas la nature. Et je pense que les femmes ne sont pas dupes du tout des visées
du mouvement
politique.
Absolument pas dupes. Voilà.
Et que certaines femmes qui se revendiquent féministes ne le sont pas du tout et se tirent une balle dans le pied comme ça a été démontré cet
après-midi. Elles se détestent entre elles, la preuve.
Et elles se détestent absolument. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants avec Geoffroy Lejeune et Philippe Guibert, deuxième partie de 16 disputes dans quelques instants en direct sur CNews. Toujours en direct sur CNews, la deuxième partie de Ça se dispute avec Geoffroy Lejeune et Philippe Guibert. D'abord un point sur l'information. Simon Guilin, bonsoir Simon.
Bonsoir Lionel et bonsoir à tous. En cette journée internationale des droits des femmes, des manifestations féministes se sont tenues dans toute la France et notamment dans la capitale. Des milliers de personnes ont défilé pour la défense de l'égalité femmes-hommes. À Paris, quelques tensions ont éclaté aujourd'hui entre des militantes pro-Israël et pro-Palestine. À quelques jours du début du Ramadan, le ministre de l'Intérieur veut renforcer la sécurité dans toutes les mosquées de France. Gérald Darmanin a demandé aux préfets, aux policiers et aux gendarmes une protection particulière dans tous les lieux de culte. Cette période de jeûne pour les musulmans doit durer un mois. Et puis l'Union européenne et les États-Unis annoncent l'ouverture d'un corridor entre Chypre et Gaza pour acheminer l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Après 5 mois de guerre, le Premier ministre israélien a annoncé poursuivre ses opérations, notamment dans le sud de la bande de Gaza. Aucun accord sur une trêve humanitaire n'a été trouvé lors des négociations en Égypte ces derniers jours.
Merci Simon. L'information revient à 22h en direct sur CNews. Deuxième partie de notre émission. Ça se dispute, Philippe Guibert, Geoffroy Lejeune et Moscou qui a estimé que les récentes déclarations d'Emmanuel Macron, on y revient, portant sur le potentiel accroissement du soutien de la France à l'Ukraine, augmentait, je cite, l'implication de Paris dans la guerre. Nous n'avons donc jamais été aussi proches de l'escalade. Écoutez ce que disait Sylvain Maillard, le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale ce matin sur CNews.
Poutine n'a pas de limite dans ses attaques. La France n'aura pas de limite dans son soutien à l'Ukraine. C'est très clair, le président de la République l'a dit. Et d'ailleurs, je vous redis qu'il y aura un vote à l'Assemblée nationale mardi sur notre politique de soutien envers l'Ukraine. Et donc chaque parti politique devra se positionner, chaque député devra se positionner par rapport à ce que je crois qu'il ne faut pas oublier. Poutine a pris la parole il y a quelques jours pour ce qu'on appelle un discours à l'Union et a dit une chose. Parce que Poutine, en fait, il dit exactement ce qu'il va faire. Il a dit une chose très claire, l'Empire russe a besoin de la guerre.
Et donc, si Poutine et la Russie ne comprennent que la guerre, Philippe Guibert, est-ce qu'Emmanuel Macron et ses partisans jouent avec le feu?
Ils surjouent, en tout cas. Je pense qu'ils surjouent un peu la situation. Avec le feu, restons calmes quand même. Tout le monde montre les muscles de chaque côté. Il y a une part de mise en scène, donc, y compris du côté de Poutine, à usage interne. Hein. Je pense qu'Emmanuel Macron a gâché une bonne occasion de réunir les Européens dans un soutien à l'Ukraine. Il les avait tous à l'Élysée pour prendre conscience du fait qu'on ne pouvait pas éternellement compter sur les Américains. Le Congrès est bloqué pendant toute la campagne présidentielle. Et donc les Européens ont un devoir particulier et renforcé de soutien à l'Ukraine. Et ça que Emmanuel Macron sonne le tocsin... sur ce point, c'était tout à fait bienvenu. Il aurait pu avoir des initiatives partagées avec les autres dirigeants européens. Au lieu de ça, il fait une déclaration qui est par nature dissensuelle, qui est par nature inquiétante, alors que tout le monde sait très bien, tous les spécialistes savent très bien que l'armée française a de quoi tenir 80 km de front et de tenir quelques semaines à tirer des obus. Donc, tout ça, même sur le plan militaire, n'est pas très sérieux. Donc c'est pour ça que tout le monde surjoue dans cette affaire. Mais je trouve dommage qu'Emmanuel Macron, qui aurait pu avoir raison sur le fond en disant « Attention, nous, Européens, il faut que nous montions en gamme dans le soutien à l'armée ukrainienne parce que aujourd'hui elle est en difficulté du fait de la défection américaine et du blocage du Congrès, sans même parler de l'élection de Donald Trump en novembre prochain. » Plutôt que d'avoir cette action qui visait à rassembler, une fois plus, Emmanuel Macron a préféré se singulariser. Et ça, je trouve ça dommage, parce que ça aurait été beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinent d'être groupé sur ce sujet de l'Ukraine, sans en plus inquiéter, y compris les Français, de façon un peu artificielle, parce que là, on joue un petit peu à montrer ses muscles pour, en fait, pas faire grand-chose.
Mais la vraie question, Geoffroy Lejeune, c'est de se dire... Que risquent les Français? Que risque la France? Je ne parle pas des troupes que Emmanuel Macron pourrait éventuellement envoyer en Ukraine, comme il l'a dit il y a quelques jours. Il y a aussi le fait que la dissuasion nucléaire devrait être efficace. Mais que risque la population française si vraiment il y a une escalade? Il y a eu une parodie d'émission sur Russia TV où les animateurs et les différents chroniqueurs, un petit peu comme ici, sur ce plateau.
On est moins talentueux que
s'amuser à décider quelle ville allait être bombardée en premier. Strasbourg, peut-être Lyon, avant Paris, bien sûr. C'est de cela dont on parle à la télévision russe.
Écoutez, c'est le scénario du pire, catastrophique, etc. Donc, si on rentre dans un affrontement entre puissances nucléaires, on peut imaginer l'apocalypse. Ah, je vais balayer très vite cette hypothèse, on va essayer de ne pas y penser. Mais qu'est-ce qu'on risque déjà, qu'est-ce qu'on a déjà payé quand même? Parce que cette guerre, elle a commencé il y a 2 ans et pour l'instant, elle nous coûte plus à nous qu'aux Russes. C'est la première chose. C'est-à-dire que pour une économie à genoux, ils ont un taux de croissance qui se porte bien, ce qui n'est pas notre cas. Et notre économie est exsangue et en tout cas est très en difficulté. Et les Français, eux, ils payent. Ils payent la facture au sens propre du terme depuis 2 ans. Ça, c'est une réalité, malheureusement, hein, qui, je pense, devrait nous inciter à être un petit peu plus modestes quand on parle de nos capacités à faire la guerre. Ensuite, sur l'autre partie de votre question et de votre sujet, moi, j'ai beaucoup de respect pour quelqu'un qui s'appelle Sébastien Lecornu, qui est l'actuel ministre de la Défense français. J'ai discuté avec lui il n'y a pas longtemps parce que je l'ai interviewé pour le journal du dimanche de tout ça et j'ai compris beaucoup de choses en l'écoutant. Sur, premièrement, le rôle de la France. Il explique que la France soutient l'armée ukrainienne, forme des soldats ukrainiens et est en train d'essayer d'accroître ses capacités de production dans l'armement parce qu'on s'est rendu compte, comme à chaque fois qu'on a une crise, qu'on était plus souverain et qu'on ne produisait plus assez. Donc, pour espérer avoir une économie en fait qui soit un peu plus orientée vers cet objectif, il explique ça premièrement. Deuxièmement, il explique que à l'heure où on parle, la Russie se comporte avec nous de manière agressive, c'est-à-dire qu'elle amplifie des polémiques sur les punaises de lit, elle manipule parfois des fake news, elle fait quelques cyberattaques sur des sites, etc., ce que je suis tout à fait capable de croire. Mais il explique aussi que, contrairement à ce que vient de dire Sylvain Maillard, et je vais revenir sur son cas à la fin, la Russie se comporte dans un cadre absolument délimité, avec des lignes rouges qui ne sont pas franchies, c'est-à-dire celle d'attaquer un pays de l'OTAN. Donc nous, on n'est pas co-belligérants, ça c'est encore lui qui le dit, et la Russie ne nous attaque pas non plus. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe depuis quelques temps ? C'est Emmanuel Macron qui a fait monter la pression. Je dis pas que les Russes sont gentils et qu'ils ont rien demandé, mais il a fait monter la pression, lui, volontairement, pour sans doute un objectif politique qui a échoué à l'heure où on parle, puisqu'il s'est retrouvé tout seul. Donc, quand j'entends Sylvain Maillard, quand j'entends Sébastien Lecornu m'expliquer tout ça, et dire ce matin que il est hors de question, contrairement à ce qu'a sous-entendu Emmanuel Macron, que des Français, des soldats français, aillent faire la guerre sur le terrain ukrainien, parce qu'il a quand même remis tout le monde un peu à sa place en expliquant que ce n'était pas du tout le projet. Quand j'entends Sébastien Lecornu, qui est quelqu'un de sérieux et dont le métier est de s'occuper au quotidien de la défense française, dire ça, et que j'entends en parallèle de ça Emmanuel Macron jouer, parce que je pense que, ou surjouer cette posture de chef de guerre avec des objectifs diplomatiques pour l'instant manifestement pas remplis, et surtout des gens comme Sylvain Maillard, dont la crédibilité et la compétence dans le sujet sont absolument nulles. C'est-à-dire qu'en fait, il n'avait même pas beaucoup de crédibilité et de compétence sur d'autres sujets avant. C'est quand même le président.
Tu l'aimes beaucoup.
Non, c'est pas ça. J'avais rien contre lui jusqu'à découvrir que c'était en plus un président de groupe qui n'a pas d'autorité sur ses troupes, que personne ne prend au sérieux. Donc, aller se redorer la pilule sur l'antenne de CNews et Europe 1 en disant « je serai intraitable face à Poutine » quand on s'appelle Sylvain Maillard et qu'on ne connaît pas la situation de la défense française, honnêtement, il faut que ces gens reviennent à la raison et reviennent à une posture qui est plus à l'ordre de leur niveau.
Et c'est un sujet, Philippe Guibert, qui fait faire pchit, puisque Sylvain Maillard, justement, l'ami de Geoffroy Lejeune, a dit que mardi, il y allait avoir un vote à l'Assemblée nationale. Que vont faire... Oui, c'est très bien, effectivement, et on peut imaginer même, que cela va tempérer.
Ça aurait dû aller de soi, il a fallu un peu de pression.
Ça va être intéressant de savoir ce que vont voter les députés RN et les députés LFI.
Oui, tout dépendra aussi exactement du discours de Gabriel Attal. Jusqu'où ira Gabriel Attal dans son discours? Parce que Geoffroy vient de l'expliquer, au sein du gouvernement, on sent bien qu'il y a et des ministres compétents, on sent bien qu'il y a une volonté de ne pas en rajouter. Et donc je ne sais pas quelle sera la ligne de Gabriel Attal, qui sera forcément coordonnée avec le président de la République. Et donc la tonalité aura aussi des...
Forcément, vous pensez ? Forcément coordonné.
Ah, je peux pas imaginer que sur ce sujet-là, comme sur la plupart des autres sujets,
semble j'ai beaucoup de tensions, dit-on.
Des tensions, oui, mais
désaccords.
Mais ayant travaillé pas mal d'années à Matignon, j'imagine pas qu'on puisse un premier ministre puisse faire un discours sur en plus le domaine réservé du président de la République. enfin en tout cas partagé au minimum, sans qu'il y ait une forte coordination avec le président de la République. C'est inimaginable. Ou alors on a changé d'institution et là, on est dans une crise de régime. C'est autre chose. Mais là, je ne crois pas une seconde à ça. Donc Gabriel Attal fera une déclaration qui sera sous-pesée mot par mot avec le président de la République. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute. On verra exactement si l'exécutif à l'Assemblée nationale, au moment du vote, veut forcer les clivages et donc faire de la politique, ou bien simplement s'ils en reviennent, ce qui me semblerait plus légitime, à l'idée qu'il faut que nous aidions plus l'Ukraine. Parce que, excusez-moi, mais je suis un peu enrayé là, Geoffroy a parfaitement raison sur le fait qu'on n'a pas du tout réussi à mettre à genoux l'économie russe qui s'est bien repliée sur d'autres pays dans ce qu'on appelle le sud global. Et donc ils ont réussi à écouler leurs marchandises. Néanmoins, sur le plan militaire, on n'en a pas fait assez, on en a peut-être fait trop sur les sanctions, ce qui a eu des conséquences pour nous. Sur le plan militaire, il faut qu'on en fasse plus. Et donc moi, je trouve que ce principe de monter en puissance sur le plan militaire dans l'aide à l'Ukraine me paraît tout à fait défendable et que ça pourrait trouver un consensus.
Peut-on imaginer une majorité de députés à l'Assemblée nationale voter une aide plus importante encore pour l'Ukraine?
Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de suspense sur ce vote à l'Assemblée nationale, parce que si j'écoute depuis maintenant 10 jours tous les partis politiques, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut aider l'Ukraine. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne faut pas faire la guerre. Voilà. Donc, si je résume la position, le gouvernement ne peut pas vraiment... Je vois mal le gouvernement aller chercher à se retrouver en minorité sur un sujet où, finalement, il y a une forme de consensus dans la classe politique française. Et d'ailleurs, heureusement, parce que s'il y avait un consensus sur le fait qu'il faut être plus agressif et déclencher la guerre avec les Russes, je ne sais pas où ça nous emmènerait. Donc, je pense qu'il n'y a pas un suspense énorme, et je pense que c'est un peu un vote de façade. Et en effet, un piège tendu à LFI et au RN, dans lequel ils sont assez intelligents pour ne pas tomber.
Dernière thématique avec l'un des sujets que vous préférez en ce moment, les Jeux Olympiques de Paris et la polémique au sujet de cette affiche qui efface donc la croix des Invalides. Est-ce que cette polémique est justifiée avec le créateur de l'affiche qui explique que le but n'était pas tant la fidélité de la représentation, mais plutôt l'extension artistique. Et on voit d'ailleurs que sur le périphérique parisien, il y a Marseille et puis il y a Tahiti également qui... vont accueillir également les Jeux Olympiques. Mais je voulais vous faire écouter les propos du ministre des Affaires étrangères italien, puisque la polémique a dépassé les frontières. Antonio Tajani a fait savoir sa colère contre la laïcité à la française dans le cadre de cette polémique. Écoutez-le.
C'est pas une bonne idée d'effacer la croix des Invalides. C'est pas une bonne idée d'effacer notre histoire et notre identité pour envoyer un message aux autres. Mais aucun musulman, aucun juif aurait effacé son histoire. Parce que le respect, si nous ne respectons pas nous-mêmes, les autres ne jamais respecteront les Européens. C'est pas laïcité, c'est stupidité.
Il parle de stupidité, Philippe Guibert, et il parle des autres. Quand il dit les autres, il parle des musulmans notamment. Est-ce que déjà, c'est si grave que ça, dans un dessin, une représentation, d'avoir retiré cette croix? Et est-ce que ce que dit le ministre des Affaires étrangères italien est grave également?
Je trouve que le ministre des Affaires étrangères italien devrait s'occuper des affaires étrangères italiennes et pas des affaires françaises. À mon humble avis, je respecte beaucoup ce monsieur, mais je trouve
que dans ce cas-là, faut pas applaudir quand Macron veut aller conquérir le monde pour le convaincre de constitutionnaliser.
Je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Donc je trouve d'abord qu'il devrait se mêler des relations internationales de l'Italie et pas de celles de la France. Premier point. Deuxième point, ça n'a rien à voir avec la laïcité, cette affaire. J'ai horreur qu'on mette la laïcité et qu'on ne comprenne pas la laïcité à la française, qui n'a rien d'anti-religieux. C'est juste une séparation. C'est pas de dire que la religion n'existe pas. Donc que le fait qu'il n'y ait pas eu de croix dans cette affiche sur les Invalides représentés sur cette affiche n'a rien à voir avec la laïcité. Troisième point, c'est toute l'affiche qui manque de symbolisme et de dimension symbolique. C'est une affiche qui ne joue que sur le registre du ludique, qui prend les codes de la BD pour préadolescents. Je n'ai rien contre. Mais je me dis que pour les Jeux Olympiques, peut-être qu'on aurait pu retrouver ce qu'on attend des Jeux Olympiques, c'est-à-dire un peu de symbolisme du sport et de des valeurs du sport et puis des valeurs de l'olympisme. Et par ailleurs, pour finir sur cette histoire de croix, qui ne me paraît pas dramatique, je pense que le christianisme va s'en remettre, je trouve néanmoins ça bébête, de ne pas avoir dessiné la croix. Ça sent tellement le comité qui a regardé l'affiche et qui s'est dit, oh mon Dieu, on va peut-être avoir un problème avec le cahier des charges de l'olympisme, mais de penser qu'une croix sur les invalides constituera une forme de prosélytisme qui est interdit par le cahier des charges de l'Olympisme, et c'est très bien comme ça, ça me semble tout à fait ridicule. Donc je trouve cette affaire de croix plutôt ridicule de ne pas l'avoir représentée sur l'affiche, et je pense qu'on est dans une affiche qui a pris le parti général de n'avoir aucune dimension symbolique et d'en faire une affiche ludique pour préadolescents.
Et de respecter la demande notamment du CO, du COJO, puisque
oui, mais on pouvait le respecter, à mon avis, de façon
symbolique, mais
plus intelligente.
Qu'aurait-on dit ? Est-ce que le débat aurait été le même, Geoffroy Lejeune, si cette affiche avait retiré un symbole juif ou un symbole musulman ?
Ah, c'est une bonne question. C'est une très bonne question.
Est-ce qu'on tiendrait les mêmes propos ?
C'est une très bonne question.
Et est-ce qu'on parlerait de non-laïcité ?
Je pense que le courageux artiste qui a pris sur lui d'enlever la croix n'aurait pas osé, pour tout vous dire. Mais je ne vais pas lui faire de procès d'intention.
Hugo Gattoni, français d'origine italienne.
Il défend très mal le pauvre en plus, donc je ne vais pas l'accabler plus que ça. Moi, je pense que c'est grave. Je pense que c'est grave parce que, en fait, je vais le prendre dans l'autre sens. J'étais pas en désaccord avec ce que disait Philippe, mais j'ai pas envie de faire le commentaire du dessin. Je commande pas les dessins d'enfants à part ceux des miens. C'est en fait, il se passe quelque chose dans ce pays en ce moment. Moi, je parle avec beaucoup de responsables politiques et quand je leur demande leur diagnostic sur l'état du pays, ils utilisent tous assez rapidement le terme de dépossession. C'est-à-dire que tous les clivages sont traversés par le même constat, c'est les Français se sentent privés de leur pays. Il y a une angoisse de le voir disparaître. Quand Notre-Dame a brûlé, tout le monde a compris que ce n'était pas juste une église qui brûle. C'est une part de nous qui part en fumée et tout le monde l'a compris. Parce qu'il y a une angoisse, parce qu'en réalité, dans le quotidien des Français, tous les jours, il y a un pan de quelque chose qui faisait partie de l'univers mental, des paysages, de quelque chose de rassurant, de domestique, de notre maison à nous, qui disparaît.
Inquiet à ce point-là ?
Moi, je pense que c'est ce que les Français pensent et moi, je pense qu'ils ont raison. C'est-à-dire que quand tu apprends que nous n'avons plus d'industrie, tu dis, tiens, il y avait ça, on l'a plus, qu'on était indépendant sur le plan énergétique et que Pierre Messmer, il y a maintenant 50 ans, lançait les 13 réacteurs nucléaires et qu'aujourd'hui, en fait, on en est à importer du gaz russe qui est passé par l'Inde.
Oui, mais une croix des invalides retirée sur un dessin, c'est si grave que ça par rapport au déclin de l'industrie ?
Je prends l'exemple de l'industrie, de l'énergie, de la culture, dans tous les domaines. Et en fait, vous réalisez que dans l'inconscient collectif, ces églises, les invalides, les églises, les 36 000 clochers, le long manteau d'église, le blanc manteau d'église dont parlait Malraux, en fait, ça en fait partie de la France. Que vous soyez croyant ou pas, que vous soyez un laïcard forcené ou pas, etc. Et c'est attaqué, en fait. Et depuis quelques années, c'est encore plus attaqué qu'avant. Et c'est pour ça que quand on déboulonne la statue de Jean-Paul II en Bretagne ou les petites croix sur les calvaires, c'est pas juste une petite croix sur un calvaire qui disparaît, c'est une part de ça qui est attaquée, un nouveau pan qui s'en va. Et je pense que, globalement, ça angoisse. Donc le fait que sur ce dessin qui est censé nous symboliser et représenter le Paris 2024, ils aient délibérément décidé de l'enlever, ça rend les gens fous. C'est pas une vaine polémique.
Merci, c'est terminé. On aura l'occasion d'en parler encore une fois. Les Jeux Olympiques, ça va nous occuper. Vous allez le voir quotidiennement dans quelques temps. C'est déjà presque le cas d'ailleurs, j'en suis persuadé. Merci Geoffroy Lejeune, merci Philippe Guibert. Dans un instant, c'est Olivier de Clairenfleck pour Soir Info sur CNews. Bonne soirée et à demain 14h pour 180 minutes, bien sûr.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.